de Radio Classique avec François Geffrier.
Il est 6h38. Bonjour Stéphane Aznar.
Bonjour.
Et bienvenue dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de Dargo. Dargo, ce sont des grands classiques de la BD. Blake et Mortimer, Boule et Bill, Garfield, Lucky Luke ou encore 13. Racontez-nous, c'est aussi d'autres titres, on va y venir. Racontez-nous un peu l'histoire de cette maison d'édition.
Ah, écoutez, c'est une histoire assez récente puisque Dargo n'a été fondée qu'en 1936. Donc c'est déjà il y a quelques années, mais ça nous rajeunit pas quand même. C'est Georges Dargo, comme son nom l'indique, qui crée cette maison. Un jeune homme de 25 ans qui a une intuition de lancer d'abord des magazines de presse. C'est-à-dire qu'à l'époque, Dargo, ce sont des magazines qui sont publiés de manière régulière, un peu comme l'hebdomadaire Tintin. D'ailleurs, il commence à publier la version française de l'hebdomadaire Tintin qui est sorti en Belgique d'abord, puis ensuite il lance lui-même d'autres magazines. En 1960, c'est vraiment l'acte fondateur de Dargo, il lance le magazine Pilote.
Magazine totalement mythique, qui a vu la naissance et les feuilletons de beaucoup de BD devenus très célèbres.
Exactement, donc il rachète Pilote et il a l'intuition d'y mettre à la direction de la rédaction un duo de génie absolu qui sont René Goscinny et Jean-Michel Charlier.
Ça paraît incroyable.
C'est une dream team. Ouais. C'est une dream team qui va ensuite développer avec des auteurs tels que Jean Giraud, Claire Bretéché, Philippe Druyer, Gottlieb, Albert Uderzo, puisqu'il faut pas oublier Astérix est né dans Pilote.
Oui.
Et ensuite des héros comme Achille Talon, Blueberry, Philémon, Tanguy la Verdure. Voilà. Donc c'est d'abord une création d'un magazine et puis petit à petit, ces séries créées dans le magazine Pilote vont devenir des albums.
Oui.
C'est pas tout de suite donc, mais au fur et à mesure que le Pilote se développe, on lance des albums pour continuer à promouvoir ces séries et à leur offrir une nouvelle vie auprès de lecteurs. Donc les albums commencent à arriver dans les librairies et sur les tables des libraires. Et donc là, on est dans l'âge d'or de Pilote. Hein, c'est vraiment les années 60 et l'âge d'or de Dargo avec le lancement donc de séries comme effectivement Astérix, Blueberry et puis des auteurs qui également continuent à se développer. Il y a des auteurs qui ont commencé à créer dans Pilote comme Enki Bilal par exemple, comme René Pétillon. On voit bien que le spectre est déjà très très large et que déjà la bande dessinée de Pilote, c'est pas juste de l'humour mais c'est de la science-fiction, du western, de l'actualité.
Et Dargo et Pilote sont aussi le reflet d'une époque qui évolue, qui bouge avec son temps. Dans les années 90-2000, il y a eu l'émergence de nouveaux auteurs, Johann Sfar, Catherine Meurice, Christophe Blain. Est-ce que les uns sont les héritiers des autres ou est-ce qu'il y a des phases, des époques qui ne se répondent pas forcément?
Alors oui, il y a tout à fait cette notion d'héritage, hein, puisque dans les années 2000, il y a un autre acte fondateur chez Dargo, alors qui perd entre-temps Astérix,
oui,
et qui se reconstruit et se réinvente en lançant une collection qui va s'appeler Poisson Pilote, ça ne s'invente pas. Et Poisson Pilote va donner en fait la parole à des tout jeunes auteurs complètement inconnus à l'époque qui font leurs premiers albums. Et ces auteurs, c'est Johann Sfar, Riyad Satouf, Mathieu Sapin, Christophe Blain, Lewis Trondheim, etc. Donc il y a effectivement ce passage de relais dans les années 2000 avec cette collection Poisson Pilote qui fait donc perdurer cette grande tradition de Dargo qui continue avec ensuite dans les années 2000 d'autres auteurs qui rejoignent cette écurie. Catherine Meurice, Marion Montaigne, ouais, Wilfried Dupanot, Jules, etc.
Et aujourd'hui, 2024, comment va ce marché de la BD? Comment va Dargo d'ailleurs? On a tendance à avoir en tête que le marché de la BD est submergé, au sens positif ou pas, je ne sais pas, vous allez me dire, mais par le manga, qu'en est-il?
Alors, vous avez raison, le manga, c'est une vague, c'est pas
vous,
une
vague. Vous n'y êtes pas du tout.
Hein. On n'y est pas du tout. Dargo. Alors, notre groupe y est, hein, nous avons deux marques, Kana, qui est un des leaders du marché avec Naruto, et nous avons une autre marque qui s'appelle Vega Dupuis, mais Dargo a choisi de ne pas y être. Nous sommes un éditeur de bande dessinée franco-belge, comme on le dit habituellement, et la bande dessinée dite franco-belge se porte bien, elle est effectivement attaquée par cette vague gigantesque du manga qui dure depuis déjà des années. En 2023, une BD sur deux en France qui se vend est un manga. Donc effectivement, la part de marché du franco-belge est devenue que à 50%. Elle reste à 50% d'un marché qui est quand même très tonique, très dynamique et qui est porté par une créativité absolument incroyable.
Oui, et alors votre carton absolu tout récemment, ça s'appelle Un monde sans fin.
Oui.
Donc Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici, 1 million d'exemplaires. ce qui est gigantesque dans le monde de l'édition, évidemment. Et pourtant, c'est 30 euros. Donc, vous auriez pas forcément parié sur un tel volume?
Alors, ce type de succès, ça, c'est un miracle qui arrive à peu près une fois par siècle dans la vie d'un éditeur. Un million d'exemplaires sur un album à 30 euros, c'est plus qu'Astérix, hein, puisque Astérix, c'est 1,5 million à 2 millions, mais à 11 euros. Oui. Donc, quand on fait le ratio chiffre d'affaires, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. C'est un succès absolument incroyable, mais qui est aussi le reflet d'une époque et le reflet également de l'évolution de la bande dessinée qu'a largement impulsé Dargaud, avec une bande dessinée qui n'est pas qu'une bande dessinée de divertissement, mais qui est une bande dessinée qui est en prise avec le réel, qui explique le monde.
La BD de reportage.
Une BD de reportage, exactement. Une BD, on appelle ça la BD du réel aussi, c'est pas très joli comme
on dit, le cinéma du réel pour les documentaires.
Voilà. Et c'est vrai que Le Monde sans fin, alors on en avait fait d'autres avant, on avait fait une autre bande dessinée qui avait été un gros succès, qui s'appelait Dans la combi de Thomas Pesquet, qui suivait Thomas Pesquet lors de ses entraînements pour rejoindre Lisa. Donc oui, c'est une lame de fond et que Dargaud continue à travailler, puisque nous avons lancé très récemment une collection qui s'appelle La Collection Embarquée, qui va proposer à des auteurs de bande dessinée, comme son nom l'indique, de s'embarquer sur un thème comme un reporter gonzo, comme un journaliste gonzo qui va aller sur le terrain et qui va, crayon en main, faire un reportage sur un thème divers et varié. On a une bande dessinée qui sort dans quelques semaines sur l'Union Européenne.
Oui.
Qui est exactement dans ce thème-là.
Il y a les BD de Mathieu Sapin.
Alors, c'est Mathieu Sapin, le directeur de la collection de Embarquer. Alors, soit il dessine lui-même, soit il embarque avec lui, c'est le cas de le dire, des auteurs. Et là, en l'occurrence, c'est un jeune auteur qui s'appelle Coco Pello qui sort cette bande dessinée dans quelques semaines.
Et il va y avoir aussi un événement pour vous cette année, ça va être La Route par Manu Larsonnet.
Alors, tout à fait, c'est dans maintenant 3 semaines. On est tous très enthousiastes chez Dargaud, puisque ça va être incontestablement un des événements éditoriaux de l'année 2024. Tout segment confondu, c'est l'adaptation du roman de Cormac McCarthy par Manu Larsonnet, très grand auteur d'Argo. Et c'est absolument stupéfiant, c'est une bande dessinée. Alors c'est pas rigolo, hein, parce que La Route c'est quand même une divagation d'un homme et de son fils dans un monde post-apocalyptique. Donc si je le dis comme ça un vendredi matin, je pense
non, mais
que
en
c'est
BD
pas...
ça peut donner quelque chose d'assez...
Mais c'est absolument stupéfiant et c'est déjà un grand classique.
Dernière chose, comment est-ce que vous avez géré l'explosion du prix du papier et l'inflation des coûts en général?
Ah, on le gère avec beaucoup de difficultés. Nos marges sont effectivement extrêmement réduites. On essaie d'ajuster nos prix de vente, mais on ne veut pas non plus faire n'importe quoi, car notre intérêt, ce n'est pas de vendre que des bandes dessinées à 30 euros. On a aussi des lecteurs qui achètent des bandes dessinées à 12 euros ou à 13 euros. Donc on essaie d'ajuster. C'est un travail d'équilibriste assez compliqué.
Merci beaucoup, Stéphane Aznar, directeur général de Dargaud, ce matin en direct sur Radio Classique.